Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 27e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi la dimension « faire ce dont le monde a besoin » de l'ikigai est utile à notre bonheur? Cette semaine, je vais clore le cycle des émissions dédiées à l'ikigai par une réflexion partagée sur le cercle d'influence du bonheur nommé « faire ce dont le monde a besoin ». En effet, la dimension altruiste de la vie est intégrée depuis des siècles à la philosophie de vie sereine et épanouie que les habitants d'Okinawa au sud du Japon nomment Ikigai. Faire ce dont le monde a besoin provoque la question : qu'est-ce ou qui est le monde ? Si le monde représente notre planète et ses occupants, nous pouvons imaginer par les récits d'actions de grande dimension, répondant aux besoins du monde entier. Dans ce cas, la tâche peut paraître inatteignable tant les besoins du globe sont immenses. Cela peut couvrir les besoins des populations uniquement. Paix, santé, éducation, sécurité, emploi, épanouissement personnel et les besoins de la planète. Respect de l'environnement, de la vie animale et végétale, propreté des sols et des océans, stabilité climatique, diversité. Cependant, pour faire ce dont le monde a besoin, nous n'avons pas besoin de parcourir le monde entier, car le monde commence là où notre peau s'arrête. Autrement dit, nous pouvons mettre nos talents à profit pour répondre aux besoins d'une seule personne ou d'un seul lieu, en commençant par notre environnement le plus proche, nous sentir utiles pour les gens qui nous entourent est notre premier pas de cette dimension de l'ikigai. Porter à autrui bienveillance, empathie, considération, reconnaissance, attention, intérêt, bonté, générosité, gratitude, amitié, amour. Tout cela participe de notre bonheur et la science le prouve. Dans une étude consacrée au lien entre bonheur et générosité, publiée dans la revue Nature, 6 chercheurs démontrent, en utilisant des images cérébrales, que la partie du cerveau liée à la sensation de bien-être est stimulée lorsque l'on offre quelque chose à une autre personne. Dans son excellent et volumineux livre Plaidoyer pour l'altruisme, Mathieu Ricard nous l'explique avec ces mots si simples et si justes. Notre propre bonheur se nourrit du bonheur que l'on apporte aux autres. En offrant aide, écoute ou quelque chose qui apporte de la joie à l'autre, on participe au bonheur de l'autre, mais également à son propre bonheur. Pour mesurer l'impact d'un acte de bienveillance sur le bonheur, une étude universitaire américaine faisant participer 86 personnes les a réparties en 3 groupes. Le groupe 1 a eu comme consigne d'aider quelqu'un de façon désintéressée pendant les 10 jours suivants. Le groupe 2, de faire quelque chose de nouveau. Le groupe 3 n'a reçu aucune consigne. Le résultat du test a été impressionnant. Les groupes 1 et 2 ont connu une hausse analogue de leur sentiment de bonheur, tandis que le groupe 3 n'en a connu aucun. Démonstration a été faite qu'aider les autres de manière altruiste est aussi bénéfique à son épanouissement que de se lancer dans un nouveau projet. Être généreux, participer à des actions philanthropiques, donner de son temps et de son énergie au sein d'associations humanistes ou humanitaires, comme les clubs services, tel le Lions Club International, est une source personnelle de bonheur. De plus, selon les chercheurs américains de l'Université de Californie et de l'Université de Caroline du Nord, ce sentiment aurait également des conséquences sur nos gènes. Concrètement, après avoir effectué des prélèvements sanguins sur 80 volontaires en bonne santé, les chercheurs ont observé que le génome humain semble répondre à un état psychologique positif. En cas d'altruisme, les gènes inflammatoires baissent et les gènes antiviraux augmentent afin de protéger le corps. Comme le dit le psychiatre Christophe André, qui prescrit régulièrement de l'altruisme à ses patients, rendre service aux autres nous rend plus heureux, et être plus heureux nous pousse à rendre service aux autres. De même, pour ceux à qui nous avons rendu service, cela les rend un peu plus heureux, ou un peu moins malheureux, et les prépare donc à se tourner un peu plus facilement vers les autres. L'entraide et la solidarité sont des vertus qui amènent tout naturellement à nous soutenir et nous secourir les uns les autres. Pour chacun et chacune d'entre nous, ces sentiments positifs et sociaux permettent le développement de la confiance en soi, de l'estime de soi. La solidarité offre la satisfaction des besoins d'appartenance. En diminuant la solitude, elle donne à la personne généreuse un sentiment de bien-être, réduit considérablement le stress et, de plus, répond au besoin profond de trouver sa raison d'être. Pour la célèbre psychanalyste Françoise Dolto, tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Dans le monde du travail, au-delà du bien-être vécu par les collaborateurs, la solidarité facilite la communication en réhumanisant les rapports entre les individus. Elle permet de réconcilier l'économique et l'humain dans l'entreprise. À l'instar du titre de l'ouvrage collectif du think tank « L'atelier du dirigeant durable », un livre riche de situations de management et de pistes de coaching, auquel j'ai eu le plaisir de participer. L'esprit d'équipe, renforcé par la solidarité entre ses membres, nourrit chez chacun la satisfaction de ne pas s'en sentir seul face aux difficultés. De plus, en donnant à chaque personne le pouvoir d'aider les autres, cela renforce valorisation et motivation. Les tâches sont effectuées alors de façon optimale, puisant une force commune dans les talents de chaque membre de l'équipe. Un groupe interdépendant, solidaire et plus efficient, performant et réactif. Il produit plus de valeur ajoutée, participant ainsi à la rentabilité de sa structure. Or, selon une étude réalisée en 2019 par l'Institut Opinionway pour 63% des personnes interrogées, l'esprit d'équipe et l'entraide sont des valeurs manquantes en entreprise. Serait-ce l'explication de l'engouement des jeunes générations d'entrepreneurs pour l'économie sociale et solidaire? En effet, d'après une autre étude du même institut, 45% des jeunes de 16 à 25 ans veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. S'ils sont aussi enthousiastes à l'idée de créer leur structure, c'est avant tout pour se sentir plus autonomes et rechercher plus de valeur et de sens dans leur vie. La création d'entreprises représente ainsi une forme d'engagement sociétal pour 84% des sondés. Parmi les causes prioritaires pour les étudiants, l'on trouve l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique. D'autres estiment avoir un rôle à jouer sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité des chances ou encore sur le bien-être au travail. Ainsi, chaque jour, de nombreuses start-up œuvrent pour un monde meilleur. On les appelle les Impact Start-up. Symbole de la prise de conscience de la nouvelle génération, ces jeunes entreprises profitent des innovations technologiques pour remodeler nos schémas sociétaux en espérant avoir un impact sociétal et environnemental. Comme 36% des millennials, selon le World Economic Forum, elles considèrent que les entreprises doivent jouer un rôle majeur pour l'amélioration de la société et elles mettent en place des innovations technologiques, économie circulaire, place de marché décentralisée, intelligence artificielle ou robotique, au service des grandes causes, comme l'éducation, la santé la sécurité des personnes, la protection des données personnelles, le logement, les ressources environnementales, l'inclusion et la cohésion sociale. Revenons sur le thème de la semaine maintenant, le quatrième cercle de la symbolique graphique de l'ikigai, faire ce dont le monde a besoin. Complétant par son ouverture à l'autre, les trois autres cercles centrés sur soi-même, ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué et ce pourquoi je suis payé. À titre de rappel de l'émission de la semaine dernière, lorsque le cercle « faire ce pourquoi l'on est payé » recoupe celui de « faire ce dont le monde a besoin », nous trouvons nos missions. Quand le cercle « faire ce dont le monde a besoin » recoupe celui de « faire ce que l'on aime », nous retrouvons nos vocations. Mission et vocation, ce sont nos raisons d'être, le sens de notre présence sur Terre. Ce sont les connexions de nos dimensions corporelles, mentales, émotionnelles, avec notre dimension spirituelle. Je reviens un instant sur la spiritualité, qui n'est pas à confondre avec la religion. Celle-ci nous enseigne ce qui est juste et ce en quoi il faut croire, tandis que notre spiritualité nous permet de découvrir notre propre vérité, à notre propre rythme et selon nos aspirations. Cette semaine, avant le conte de sagesse, j'ai envie de vous lire un court extrait d'une de mes lectures de l'été dernier, « La puissance de la joie » de Frédéric Lenoir. La joie du don. Il existe un autre type de relation d'amour que la passion amoureuse ou l'amour d'amitié, lesquelles sont fondées sur un choix mutuel et la réciprocité. Je l'appellerai l'amour-don. On aime sans rien attendre en retour. C'est l'amour inconditionnel que peuvent ressentir les parents pour leur enfant. C'est cet amour-là qui nous habite aussi quand nous aidons quelqu'un de manière désintéressée, parfois même un inconnu, quand nous lui permettons de se redresser, de se relever, de marcher, de retrouver goût à la vie. Cet amour est source d'une très grande joie, sans doute l'une des plus belles et des plus pures qu'il nous soit donné de connaître. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et heureusement, sans la joie que procure le don, qu'en serait-il de l'entraide ou du partage? Les sociétés humaines pourraient-elle survivre si nous connaissions la joie uniquement lorsque nous prenons ou simplement lorsque nous recevons? Nous avons tous vécu cette extraordinaire expérience de la joie du don, ces quelques instants d'échange où l'on peut parfois lire un bonheur intense dans le regard de celui à qui nous donnons, sans rien attendre en retour. Il compte parmi les moments les plus forts de nos vies. La joie à l'étrange faculté de s'accroître quand on la donne. Médecin des âmes, Victor Hugo résume cette vérité dans un passage de son chef-d'œuvre, Les Misérables. Chaque après-midi, Cosette a le droit de passer une heure auprès de son sauveur. Hugo écrit. Quand elle entrait dans la masure, elle l'emplissait de paradis. Jean Valjean s'épanouissait et sentait son bonheur s'accroître du bonheur qu'il donnait à Cosette. La joie que nous inspirons a cela de charmant que loin de s'affaiblir comme tout reflet, elle nous revient plus rayonnante. Le conte de la semaine est une courte histoire indienne contemporaine rapportée par l'écrivain Jean-Claude Carrière et s'intitule « Les deux sandales ». En Inde, les trains sont toujours bondés. Un jour, un passager qui était assis sur le toit même du wagon perdit l'une de ses sandales qui tomba à l'extérieur. Aussitôt, il saisit sa deuxième sandale et la jeta le long de la voie. L'un des passagers, assis à côté de lui, s'en étonna. L'homme lui répondit. « Je n'ai que faire d'une seule sandale. Et si quelqu'un trouve celle qui est tombée, elle ne lui sera pas davantage utile. Autant trouver la paire. » pour l'action de la semaine, je vous propose de lister les besoins de votre monde et d'imaginer comment y répondre. Pour cela, prenez une feuille blanche et séparez-la en deux verticalement. À gauche, notez ce dont les personnes de votre entourage ont besoin. Mon chéri ou ma chérie a besoin. Mes enfants ont besoin. Mes amis ont besoin. Mes collègues ont besoin. Cela peut être aussi l'école de mon enfant a besoin. Ou mon jardin a besoin. Ou la forêt près de chez moi a besoin. Ou les personnes en difficulté de ma commune ont besoin. Et à droite, imaginez comment vous pouvez satisfaire ces besoins. Pour la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec B.G. Thomas et son titre « Raindrops Keep Falling on My Head » qui avait été repris en français par l'élégant Sacha Distel. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.